Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer mon intervention, je tiens à remercier les organisatrices pour cette très belle journée d'études. Mon intervention porte sur les figures maternelles dans deux ouvrages de Laudo Mebonanni. Nous verrons en quoi la maternité peut constituer une force de résistance face au fascisme. Et avant de procéder à l'analyse, je souhaite d'abord présenter brièvement Laudo Mebonanni, autrice originaire de Lacna, encore largement méconnue du grand public, y compris en Italie. Et Bonanni est née à Lacna. Bonanni est née à Lacna en 1907 et est décédée à Rome en 2002. Elle commence sa carrière comme institutrice dans des écoles de sa ville natale et publie des livres pour enfants. En 1949, Il Fosso, sa première œuvre importante, est publiée. Il faut souligner que la Bonanni milite activement au sein de l'organisation des femmes fascistes qui lui confie une mission de représentation auprès du tribunal pour mineurs de Laquila. Cette fonction renforce son intérêt littéraire pour les questions liées à la pauvreté et à la jeunesse. Malgré son engagement dans le mouvement fasciste, durant le Ventennio, l'écriture de Bonanni, marquée par une tendance nettement proto-féministe et une attitude antiguerre, entre paradoxalement en contradiction avec l'idéologie fasciste. L'ensemble de son œuvre s'articule principalement autour de deux thématiques majeures, la guerre et la douleur d'exister en tant que femme et enfant dans un monde cruel. Aujourd'hui, nous allons apporter deux ouvrages de Laudo Mebonanni. Le premier est Il Bambino di Pietra, una névrose féminine, publié en 1979. Dans ce roman, la narratrice et protagoniste Cassandra détaille, sous la forme de journal intime, sa propre névrose, dont le symptôme principal est le fantasme de l'enfant de pierre, le lithobédion fœtus pétrifié dans le corps maternel. Elle y retrace également le parcours psychanalytique qui lui permet d'affronter les souvenirs de la guerre, ainsi que l'impossibilité d'être mère dans un monde ravagé par la barbarie et les massacres. Cassandra évoque sa famille bourgeoise, son enfance traumatisante ainsi que sa sexualité réprimée. Il est particulièrement significatif de constater que lorsqu'elle revisite ses expériences personnelles, les souvenirs de la guerre, comme la figure omniprésente de Mussolini, s'y insèrent de manière récurrente. La voix narrative s'exprime ainsi depuis l'intérieur d'un corps féminin traversé à la fois par l'histoire familiale de la narratrice elle-même et par la macro-histoire. Le corps du symptôme de Cassandra réside dans l'impossibilité d'accéder à la maternité incarnée par l'image obsessionnelle de l'enfant de pierre qui affecte en retour non seulement l'esprit fragile de la protagoniste, mais aussi son corps, sa chair, les rendant stériles. Ce trouble psychosomatique apparaît comme un choix inconscient de Cassandra en tant que sujet. Une réponse symbolique au double traumatisme que subit une femme prise à la fois dans un système patriarcal et dans une époque profondément bouleversée. La pierre devient ici une métaphore du corps frigide de Cassandra, dont le désir a toujours été refoulé, et ce corps d'une rigidité extrême qui n'a jamais connu le plaisir ne peut qu'engendrer un enfant dur, froid et pétrifié. Et sur le plan du traumatisme historique, Le fantasme de l'enfant de pierre symbolise également la réponse désespérée de Cassandre face au carnage perpétuel qui traverse également les siècles, comme l'esprit, la narratrice dans cette citation. Dans un monde où la vie est possédée par la mort, dès le moment de la conception, l'acte de donner naissance devient dans l'inconscient de la protagoniste l'équivalent de l'acte de tuer. C'est ainsi que Cassandra explique son refus de la maternité. Et il convient ici de rappeler qu'au cours de deux guerres mondiales, le corps féminin a été instrumentalisé comme un outil de production de soldats destinés au champ de bataille. L'idéologie fasciste a développé une politique nataliste particulièrement coercitive. Par exemple, dans son célèbre discours de l'ascension, Mussolini place au cœur de la politique intérieure fasciste la défense de la race italienne. Il y déclare notamment: «Qualche intelligente dice siamo in troppi, gli intelligenti rispondono siamo in pochi». Ainsi, dans cette perspective, la vie est perçue comme un moyen au service du sacrifice destiné à garantir la survie de l'État. Ces encouragements à la natalité préparent notamment à la guerre qui ne cesse de hanter l'esprit de Cassandra. Cela lui inspire un sentiment de culpabilité envers les enfants qui, selon elle, sont contraints de naître dans un monde si hostile. Et l'image de l'enfant de pierre n'est pas sans lien avec la figure de l'homme nouveau exalté par le régime fasciste. Mussolini cherche, à travers une révolution anthropologique, à faire de l'homme un élément standardisé, homogène et mécanique de l'État totalitaire. Le fantasme de l'enfant de pierre peut ainsi être lu également comme une allégorie de l'angoisse féminine face à l'éventuel de naissance de cette créature monstrueuse. Comme nous l'avons vu, la narration de Cassandra s'apparente à un processus d'auto-analyse qui lui permet de redécouvrir sa subjectivité en tant que femme. À la fin du roman, plutôt que d'avoir un enfant biologique, elle développe une relation étroite avec sa nièce Amina, qu'elle encourage à poursuivre des études universitaires. Cette forme de solidarité entre femmes de générations différentes permet de proposer une nouvelle figure maternelle en dehors du modèle patriarcal traditionnel et de libérer la vie féminine de sa fonction strictement reproductive. Et le deuxième roman que nous traitons aujourd'hui, La Rappresaglia, dernier roman de Bonanni, publié à titre posthume en 2003, nous confronte, après la résistance passive de Cassandra, à une forme de résistance active portée par une autre figure féminine, la Rossa. Il s'agit sans doute du personnage le plus radical et le plus fort que Bonanni ait jamais conçu. La Rosa est une résistante capturée lorsqu'elle est enceinte et que le groupe de fascistes qui la garde prisonnière décide de la fusiller après la naissance de son enfant. Cette fois, Bonanni nous donne à voir une femme qui, en tant que mère, choisit d'affronter la mort, affirmant en même temps son pouvoir procréateur face à la barbarie du pouvoir fasciste. Dans la Rappresaglia, par des choix narratifs volontairement provocateurs, Bonanni propose un portrait impitoyable de cette partisane. Une femme qui, dès les premières pages, affiche une attitude de défi et de bravade, animée par un désir de vengeance, et qui se montre indifférente à son propre sort comme à celui de l'enfant qu'elle porte. Dans ce passage, on assiste à une scène où la femme éclatante dans sa féminité, affirmée dans ses convictions et extrêmement déterminée et immédiatement rabaissée par les fascistes au rang de prostituée, réduite à une fonction sexuelle et reléguée à une position d'infériorité par rapport au rôle masculin. Et comme on peut le voir, la Rosa oppose à cette tentative d'humiliation une force brute, presque animale, et retourne la violence du langage contre ses agresseurs. Il est rare de constater dans des œuvres littéraires qu'une femme se moque de la capacité génitale d'un homme, puisque depuis Platon, c'est le corps maternel qui est perçu comme secondaire, inerte et passive, et c'est l'homme qui est considéré comme le véritable agent de la production. La Rosa, par ses injures adressées aux fascistes, déconstruit ce type de discours phallocentrique, reconfigurant ainsi en grand-mère archaïque, fière de son pouvoir procréateur et consciente de son statut de véritable sujet dans la création de la vie. Et selon Judd Alainer, écrivaine et historienne américaine à l'époque archaïque, la capacité procréatrice de la femme était associée à la figure de la déesse. Cependant, l'émergence des premiers aida à transformer les croyances religieuses. Le pouvoir créateur est passé de la déesse mère à un dieu mâle dominant, marquant un basculement symbolique majeur. Les attitudes ironiques, indifférentes, orgueilleuses, voire capricieuses de la protagoniste dépeignent juste la figure d'une déesse mère souveraine. Et le passage suivant montre bien la figure puissante de cette déesse mère archaïque. Il s'agit d'un discours lancé par la protagoniste devant les fascistes. Si questa orribile femmina che hai davanti ama l'umanità più di voi, tutta, te perfino. E se davvero mi fosse venuta voglia di legarti i denti, anche quello che avrei potuto fare per ardore di natura e mordere un frutto. E j'aime bien la frase suivante. Anche la rivoluzione è oscena e sanguinaria per amore, è invasata per amore. La rivoluzione è femmina, partorisce da sola come me. Et dans ce passage, l'autrice propose, à travers la voix de son personnage féminin, une manière extraordinaire et inédite de penser la maternité en l'associant à la révolution. La révolution signifie le sacrifice, la violence au service de l'amour, la rupture radicale avec le passé, la naissance d'un ordre nouveau. Tout comme la maternité qui engage le corps maternel, qui engage le corps maternel dans un processus de transformation profonde pour donner naissance à une nouvelle vie. Bien au contraire de la croyance imposée par la culture patriarcale qui considère la réalité anatomique de la femme comme la cause de son infériorité par rapport à l'homme, la maternité est pour la protagoniste, la Rosa, une source de pouvoir, un pouvoir capable à la fois de détruire ce qui est obsolète et faire advenir du nouveau, un pouvoir divin conçu comme la cause première de l'univers. Ainsi, comparée à la figure de Cassandra, hantée par l'ombre de la mort et refusant de prêter son corps féminin à la guerre, la Rosa, fière de sa capacité procréatrice et de son statut de mère, apparaît encore plus radicale. Elle choisit de donner naissance à une nouvelle vie malgré une douleur immense, tout comme elle choisit de s'engager dans la révolution pour instaurer un nouvel ordre du monde malgré sa propre mort. Enfin, je souhaiterais évoquer une lecture de la maternité proposée par Adriana Cavallero à partir de ce que Hannah Arendt avance dans Condition de l'homme moderne. Ok. Pour Arendt, les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. Et selon Cavarero, cette capacité d'innovation prend racine dans l'acte même de donner naissance, qui signifie apporter ce qui est nouveau et créer la singularité. C'est précisément là que réside l'essence de la figure de la Rosa, à la fois mère et partisane. En conclusion, les deux œuvres de la Bonani mettent en scène deux figures féminines confrontées à la maternité, envisagées non seulement comme une expérience traversée par la tension entre vie et mort, mais aussi comme une force subversive, qu'elle soit passive ou active, face à l'idéologie fasciste. Merci beaucoup.